Bienvenue à toutes et tous dans Le Placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
Le mois de l'amour est bientôt terminé. Les journées sont de plus en plus douces et le soleil revient dans notre quotidien. Pour célébrer ça, nous avons décidé aujourd'hui de tourner un épisode crossover avec les animatrices du podcast Madame et Madame autour du thème des relations amoureuses lesbiennes. L'année passée a été mouvementée, notamment suite au retour de la loi PMA sur le tapis. Donc PMA, c'est procréation médicalement assistée pour les personnes qui ont besoin d'un petit rappel. Et en début d'année, la loi fut approuvée par le Congrès, donc en début d'année 2021. Néanmoins, elle refoulait les personnes trans ou non cis. Suite à ça, beaucoup de marches ont été organisées, que ce soit pour ou contre, mais sans grand succès pour le camp intersectionnel. Le décret fut finalement publié le 29 septembre 2021.
Merci Eva d'avoir planté le décor, ou devrais-je dire rappeler le contexte actuel. Donc ces dernières années ont été assez compliquées suite à la pandémie, mais aussi face aux questions sociales ainsi qu'à la situation environnementale mondiale. Et malheureusement, la vie de famille et la sécurité des personnes LGBTQ+, passent un peu en dernier lieu face au reste. Raison pour laquelle nous avons souhaité aujourd'hui discuter autour de la problématique suivante: comment construire et protéger sa famille LGBTQ+, face à l'écrasante présence hétéronormative du quotidien.
Alors, pour répondre à cette question, nous recevons les animatrices et créatrices du podcast Madame et Madame, un podcast qui vous dit tout sur le quotidien des femmes qui aiment les femmes. Et en effet, Marion et Tiffaine, vous n'êtes pas que les animatrices. Vous êtes mariée depuis un an, si je ne me trompe pas. Vous avez trois enfants.
Un an et demi.
Un an et demi ? Ah, d'accord, ok. Vous avez trois enfants, chat et deux bébés. Ah, mais je prends en compte les bébés chats.
Ah non, j'en ai quatre.
Quatre, ouais.
Ah, d'accord, ok, vous avez deux chats, ok. Ouais. Et alors, pourquoi c'est important ? Parce que pourquoi est-ce que j'essaie de dresser un petit peu le tableau familial ? Parce qu'aujourd'hui, on aimerait vous poser des questions sur votre expérience en tant que couple, sur votre expérience pour accéder à la PMA et pour avoir vos deux bébés humains, et sur votre vie de famille.
Bah, avec grand plaisir.
Et donc, du coup, avant de commencer par les questions, on va faire un petit tour de table en se présentant. Donnons nos pronoms, c'est un peu l'habitude du podcast. Donc moi, c'est Méfi, je co-présente le podcast avec Eva, mes pronoms sont elle, et depuis peu, j'utilise Yel, et je m'identifie comme une personne queer.
Moi, c'est Eva, j'utilise les pronoms elle, je m'identifie comme lesbienne, et j'habite sur la côte nord de l'Angleterre, sur Liverpool.
J'ai oublié de préciser que je suis sur la côte sud de l'Angleterre, à Brighton. À vous.
Donc, moi, c'est Tiffany. Je suis mariée avec Marion. Et donc, comme vous le savez, on est toutes les deux lesbiennes. Et moi, je me fais appeler elle.
Moi aussi.
Super. D'accord. Merci.
Merci. Super. Bon, c'est parti. On va vous poser les premières questions, du coup. Alors, quand avez-vous commencé le podcast, et comment vous est venue cette idée et pourquoi ?
On a commencé dans un grand moment de désœuvrement, le premier confinement. C'était l'idée de Tiffany au départ.
Ouais, moi c'est vrai que je voulais faire quelque chose de lesbien en fait. Je trouve que c'était dur d'avoir accès à des personnes qui parlaient d'elles en tant que lesbienne, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose, un petit peu de donner la parole, de parler de notre quotidien. Et vu que c'était pratique, il y avait Marion. Et bon,
ouais, pour moi, c'est vrai que c'est la période où on a commencé à se renseigner justement sur les possibilités de PMA à l'étranger. Et je me suis dit, mince, c'est pas normal qu'on doive aller à l'étranger, chercher de l'info qui n'est pas trouvable ici. Et je me suis sentie un peu isolée, en fait. Je me suis dit, c'est encore pas si simple en 2020 d'être lesbienne. Et donc, moi, j'avais envie de faire un peu quelque chose pour la communauté, quoi.
D'accord. Ça a du sens. Et ça, c'est un peu le feedback global, en fait, des gens qu'on reçoit aussi sur le podcast, c'est que Il y a des ressources, mais il en faudrait plus, quoi. Il n'y en a pas assez. Et en fonction des sujets abordés, c'est vrai que, par exemple, PMA, il n'y en a pas non plus des masses PMA pour les lesbiennes, justement.
Il n'y avait rien d'officiel en termes d'infos parce que c'était interdit ici, tout simplement. Enfin, ici en France, hein, parce que nous,
Oui.
on est côté de l'île, donc,
Ouais, c'est vrai que PMA, puis moi, c'était tous les autres sujets autour. C'est vrai que, bon, après, maintenant, j'ai un petit peu plus de 30 ans. Donc, je me pose plus trop ces questions, mais c'est vrai que quand j'avais entre 15 et 20 ans, je passais mon temps sur Internet à chercher des choses sur les lesbiennes et tout. Et je cherchais des sujets sur la sexualité, des sujets sur les relations entre femmes, et je trouvais ça dur. Donc, je voulais vraiment aborder tous les sujets et pas seulement l'aspect PMA, quoi.
Ouais. D'ailleurs, justement, pour le cadre du podcast, je pense que ça va être important de le dire que vous vivez, vous êtes expatrié également, c'est ça?
Non, non, on habite en France, toujours à côté
Encore.
de Lyon.
Ah, d'accord, ok, je pensais que vous habitiez sur Malte.
On n'a pas compris la même chose, du
Ah,
coup.
d'accord, ok. Je suis vraiment désolée. Du coup, vous habitez dans quel coin? Vous n'êtes pas obligé de dire exactement, mais.
Vers Lyon, hein, ils viennent
Ouais,
de
on est
dire
à Lyon.
D'accord, ok. Ok,
Lyon.
ben, je suis.
Encore mieux
Marion, c'est une
des ressources à la
plateforme.
source.
Je suis allée qu'une fois.
Ok, d'accord.
Mais je savais que tu t'étais trompée, je me suis dit non, je ne sais pas si elle s'est trompée
Out. Oh mon Dieu. Ok. Bon, bah, au moins, c'est bien pour le podcast. Elles habitent en France, pour être sûre.
Ok. Donc, comment vous arrivez un peu à gérer votre vie de famille et le podcast?
Là, on n'y arrive pas. J'ai mettre en pause le temps de trouver un peu un équilibre entre le boulot, les bébés et avoir un peu le temps de souffler aussi. Parce qu'en fait, c'est des jumeaux qu'on a, des jumeaux qui ont 4 mois et c'est assez consommateur d'énergie quand même.
C'est vrai qu'avant on se disait voilà tous les week-ends on met tant d'heures à travailler dessus, on se fixait vraiment des objectifs, on s'est fait des Excel et tout avec tous les sujets qu'on doit aborder. Avant d'être maman, c'était simple.
On s'y tenait bien, je trouve.
Maintenant, ouais, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et surtout dès qu'on va enregistrer un podcast, en fait, il pleure derrière. Les 3 premiers mois, c'était compliqué. Là, maintenant, ils vont chez la nounou, donc on peut se prévoir des moments en journée. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut se remettre un petit peu au travail aussi. Donc, on essaye de se prévoir des moments, mais bon, souvent, ça va être le soir ou quoi, donc ça peut être un petit peu fatigant. Mais ça
Des
va,
longues
rentrer
journées.
petit à petit.
Ouais. Ça, bah ouais, sinon ça fait quand même des longues journées avec du coup les enfants, le travail et le podcast en plus.
Ouais, et puis essayer de garder une maison qui est quand même dans un état relativement correct, manger des choses qui ne sont pas toujours des plats qu'on réchauffe au micro-ondes. Le podcast, c'est un truc qui nous plaît beaucoup et je trouve que sur Instagram, ça nous a permis de se connecter à une grosse communauté. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, on est obligé d'aller vraiment sur ce qui est vital en fait. Ouais.
Ouais, l'essentiel, forcément. Bon. En tout cas, merci, merci de nous avoir expliqué un peu l'envers du décor derrière Madame et Madame. Et donc, je vais plutôt vous poser maintenant une question par rapport à vous en tant que couple. Donc, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Et aussi, comment vous êtes rencontrés? Est-ce que vous étiez déjà out quand vous êtes mis ensemble?
Out, c'est-à-dire, on est d'accord sur le terme, c'est qu'on s'affirme.
Coming out, ouais.
Ouais, ok.
S'affirmer,
D'accord.
oui.
Bah, ça fait 3 ans et demi bientôt qu'on est ensemble. On s'est rencontrés sur Internet, sur un site qui s'appelle Gayvox, mais qui n'existe plus, qui n'a pas survécu, je crois, au Covid.
Ouais, je sais plus.
Je crois que c'est ça.
J'ai entendu parler de Gevox, je savais pas que ça n'existait plus, non.
Ouais, pareil.
Ouais.
D'accord.
Ouais, alors pour moi, j'étais complètement out, en effet, ouais. Pas de souci.
Pareil. D'accord.
Et Marion, pareil pour toi aussi, du
Ouais,
coup.
ouais, ouais. Pas de problème. Moi, j'ai 35 ans. J'ai fait mon coming out quand j'en avais 20. Donc, voilà.
D'accord.
Ça y est, c'est fait.
Ouais, ça fait un petit moment.
Ouais, bon. J'ai toujours su, donc s'il n'y avait pas de problème avec ça, quoi.
D'accord. Et c'était comment pour faire des rencontres du coup, à ce moment-là, quand vous avez fait votre coming out? C'était plutôt en réel ou en virtuel?
Bah pour moi, du coup, j'avais 20 ans en 2006. Il n'y avait pas tous ces sites, enfin, je crois pas. Mais en tout cas, je ne les connaissais pas. C'était plutôt les bandes de copains, les associations et tout ça, quoi. Les rencontres, pour moi, se faisaient
en plus réel.
Ouais.
Ça a du sens.
Pour moi, c'était un petit peu les deux. Parce que j'avais eu la chance, dans mon lycée, il y avait des lesbiennes. Donc, c'est vrai que consciemment, on se rapproche. Et après, j'allais dans des lieux aussi homo. Donc, j'ai rencontré des gens comme ça. Je venais d'une ville, Avignon. C'est assez petit, donc on fait vite le tour, en fait.
Ouais, bah oui.
Le tour des gens. Et j'allais en même temps aussi sur les sites. J'allais beaucoup sur les sites de rencontres et tout. Pas forcément pour sortir avec des personnes, mais aussi pour rencontrer un petit peu la communauté. Et après, on les revoit dans les lieux, vu que c'est petit. Donc, moi, je dirais que c'était un petit peu des deux, mais le virtuel, ça m'avait beaucoup aidé quand même au début, quoi.
Ouais. D'accord. Et vous étiez dans la même ville au moment de votre rencontre ou
On habitait à même pas un kilomètre.
Pas loin.
Mais vous étiez jamais vus en vrai.
Ouais. Non, parce que c'était à Lyon, donc c'est quand même grand Lyon.
Ah ouais. Oui. D'accord, c'est marrant. Et du coup, 3 ans et demi ensemble et ouais. Déjà du coup 2 bébés,
ouais.
2 chats. Une maison aussi. Ça fait plein de choses en 3 ans et demi. Quelles étaient les étapes un peu?
Pas à l'échelle lesbienne. À l'échelle lesbienne, ça va.
C'est vrai qu'en temps lesbien, finalement, c'est assez normal.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai que ça fait rapide. On va dire la première année, on a prévu le mariage.
Ouais, au bout d'un an. Ouais.
Bah, c'est vrai que Marion. Elle était déjà dans une relation qui avait été 9 ans avant, donc je pense que tu avais envie d'avancer un peu vite. Et le fait que tu aies plus de 30 ans, bah, tu as voulu avoir des enfants aussi.
Notre premier rendez-vous, elle m'a fait remarquer que j'avais 32 ans, qu'il fallait peut-être pas que je traîne trop.
Quand même. Non.
Sympa. Le rappel.
Mais ouais c'est vrai que les choses peuvent paraître très vite. Et c'est vrai que là, alors elle dit qu'on veut passer dans une routine, mais on a aussi comme projet du coup d'aller vivre en Espagne. Donc, j'ai l'impression que tous les ans, il se passe un nouveau
truc. Il se passe quelque chose.
Ouais, mais ça nous va bien pour l'instant, donc ça va.
Tant mieux. Donc, le mariage, c'était au bout des 1 an, c'est ça? Donc, vous l'avez planifié au bout des 1 an?
Au bout d'un an, elle m'a fait sa demande. Elle avait acheté une belle bague et tout. On a programmé notre mariage assez rapidement, 6 mois après. On a dû décaler parce que c'est tombé en plein Covid. Et on a commencé la PMA au bout d'un an et demi, quoi.
Oui, d'accord, oui, quand on s'est mariés, on avait déjà fait des tentatives d'insémination, oui.
D'accord, ok. Et qu'est-ce qui a été un peu le moteur de vouloir se marier? Enfin, si on parle un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de...
À part le fait qu'on s'aime?
Ouais, à part le fait que vous vous aimez.
C'est
un peu bizarre, quand même.
Après, c'est vrai qu'il y avait 2 choses. Ouais. Déjà, l'aspect... on va dire romantique, hein, le fait de se marier et tout. Et c'est vrai que vu qu'on voulait des enfants, pour l'aspect adoption et tout, c'est beaucoup plus simple quoi, quand on est marié.
Enfin, okay. Avant le passage de cette nouvelle loi, c'était le cas. Enfin, si on voulait être toutes les deux reconnues comme les
On
mamans,
était obligés d'être mariés. Quoi.
Ouais.
D'accord.
Sinon,
d'accord.
Moi, j'aurais été rien été pour les enfants, à moins de les adopter. Quoi.
D'accord, ok.
Ouais, donc le côté un peu légal, reconnaissance au niveau des enfants.
Ça a joué un petit peu, ouais.
Mes filles, elles me regardent en mode alien parce qu'on a eu une conversation là-dessus sur le mariage. C'est pour ça.
Et les enfants aussi, hein.
Et les enfants, ouais. Mes filles, elles ont un peu du côté marie-moi au bout d'un an. Et moi, j'étais un peu plus en mode, le mariage, c'est un peu un truc d'hétéro quand même et tout.
Alors, ça fait 5 ans en plus que tu es avec Gillian. Eva.
Ouais, j'ai l'impression de rentrer un petit peu dans une case, c'est sûr.
Désolée, j'essaie d'expliquer un petit peu ma question aussi pour les auditeurices parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi elle pose des questions de cheveux, genre, l'amour, quoi, Eva? Petite Marie, mais là,
moi, j'ai un peu peur, là, parce que du coup, je rebondis sur ce que Tiffany, tu as dit à Marion, du coup, au début, quand vous étiez rencontrés, en disant que faut avoir des enfants, faudra te dépêcher pour avoir des enfants parce que tu as 32 ans. J'en ai 32, je vais en avoir 33 dans 2 mois. Là, j'ai un peu la pression. Là.
C'est bon, t'as le temps encore. Hein. 45 ans, normalement, ça fonctionne encore.
Ça marche encore.
Dans la clinique dans laquelle on a fait notre FIV en Espagne, si tu as plus de 35 ans au moment de ta FIV, les embryons qui restent, ils ne les donnent pas.
C'est pas vrai.
considérés comme périmés, quoi.
Bon, wow. Moi, j'ai... Mais ils ont pris 6 mois avant mes 35 ans, donc ils pourront les donner.
T'es passé de justesse.
Oh là là.
Waouh, ok. Oh,
c'est dur, ouais.
Pourtant, je me considère encore jeune. Je me dis, ok,
c'est bon, peut-être. Jeune.
Merci.
D'ailleurs, ok, je vais rester dans le pragmatique. Moi, je vais rester dans les questions en mode. Est-ce que vous avez eu de quelconques appréhensions avant de vous marier, que ce soit au niveau des démarches, que ce soit au niveau des personnes que vous allez auxquelles vous devriez faire face
Enfin moi non.
Moi alors c'est pas bien parce que je suis toujours cible lesbienne, mais c'est vrai que rien que par rapport au boulot et tout, le fait de me dire que j'allais me marier, les gens peut-être qu'ils avaient demandé des photos, ils allaient voir ça sur Facebook. Parce que je ne l'avais pas dit à mon boulot, et au final, ça s'est su d'ailleurs. Donc, c'est vrai que je n'avais pas envie ce côté-là, et je voulais rester un petit peu cachée par rapport à ça. Après, je me disais aussi que c'était un truc. Mais c'est vrai, en fait, c'était un truc d'hétéro, je me disais un petit peu ça. Et que je trouve que ça nous faisait rentrer dans des petites cases, en fait, et que c'était d'un côté pas bien, en fait, de vouloir rentrer dans toutes ces cases qu'on essayait de faire partir de nos vies. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce côté un petit peu de se dire. J'ai pas envie de ressembler à tout le monde, mais je savais que ça lui faisait plaisir aussi. Donc, mais oui, Marie, elle a une situation un petit peu compliquée avant où elle s'était fait en fait. Je peux le dire.
Oui, tu peux
le dire. On le sait. Elle voulait se marier et un petit peu avant le mariage, la fille, bah, elle est partie.
Ah oui.
C'était une situation. Ouais, alors que tout était en place et tout.
Wow.
C'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que je me disais que tu méritais d'avoir un beau truc, quoi. Donc, il y avait tout là. Mais je me suis dit, si ça fait plaisir et tout... Bon, ça me faisait plaisir aussi.
Hein. Oui, bah, il faut.
Je comprends le côté de rentrer, de faire comme des hétéros, en fait. Ouais. C'est légitime de penser ça.
D'accord.
Et d'un autre côté, on s'est battu pour l'avoir ce droit. Oui, en plus. Donc,
C'est ça.
Tant ouais. Envie.
Moi, je dirais que ce qui me... Enfin, c'est pas une angoisse, mais par exemple, quand on prenait rendez-vous pour aller visiter les lieux alloués pour le mariage, j'essayais toujours au téléphone de déjà glisser le fait qu'on était deux femmes. J'avais pas envie de voir leur tête, genre, oh, c'est deux bonnes femmes.
Ouais.
Parce que, en fait, je trouve qu'il y a encore pas mal de gens qui sont pas trop habitués à ça, qui vont pas forcément... qui vont pas être neutres, en fait, qui vont peut-être dire des choses maladroites, qui vont avoir des regards de surprise. J'avais pas envie de ça parce que je voulais que ces moments-là, ça soit des bons moments, tout simplement.
Ouais. Et vous avez eu un mariage religieux ou un mariage en mairie?
Bah, religieux, on peut pas.
Donc, ah bon désolé, franchement, je suis...
Ouais, enfin, du moins en France, je suis pas dans les autres pays.
Ah, je savais pas du tout. Ok, d'accord.
Nous, on pouvait pas, du coup, bah, on a fait un mariage classique.
D'accord, ok.
Et après, okay. Un mariage laïque, donc ça, c'est avec la famille, les amis. Quoi.
Ouais, on avait la belle cérémonie avec l'arche dans un beau, un beau parc et tout ça. C'est encore plus beau que si on était à l'église, je pense.
Ouais. D'accord, ok.
Oh. Joli.
Ah, bah, super.
Et je voulais juste poser une question, parce que du coup, ce qui a été dit, c'était qu'au travail, donc les gens ne savaient pas, vos collègues ne savaient pas que vous étiez dans une relation lesbienne, du coup.
Juste pour Tiffany.
Juste pour toi, Tiffany.
Ouais.
Et donc, pourquoi... Ouais, dis-moi.
Je travaillais, en fait, dans le transport, à l'époque, en CDI. Donc, c'est un milieu un peu de beau, enfin, tu vois. même si il y a des petites surprises, hein. Bon. Mais, ouais, j'avais pas envie que des gens... J'avais pas envie d'être la queen, entre guillemets, de service, quoi, et qu'à chaque fois, on fasse remarquer, quoi.
Ok. Ça a du sens. Est-ce que tu pensais, tu t'es dit que tu allais peut-être te faire discriminer par rapport à ça aussi ou...
Ouais. Je pense en fait que ça aurait jacassé derrière, tu vois, ça aurait fait les commères, ils auraient parlé derrière eux, tu vois, on s'en
doute.
Après, je pense pas que j'aurais été discriminée, tu vois,
Mais
tu vois, quand tu sais que les gens, ils vont parler derrière toi, ça fait un mirage.
C'est pas
agréable. Ouais, t'as pas envie que ça se sache, quoi.
Autant éviter, ouais.
T'es obligé de le dire pour une des inséminations pour pouvoir te libérer. Parce que...
J'ai bien travaillé mon discours avant, j'ai mis du temps avant de le sortir. Hein.
Ah d'accord.
Quel était le discours?
Je devais dire, en fait, que je pouvais l'accompagner pour les inséminations. Donc, bon.
Ouais. Et puis l'insémination, tu planifies pas, tu peux pas dire 2 mois avant j'aimerais ma journée, tu peux le dire 2 jours avant à peu près, parce que tu peux pas anticiper, ça dépend de tout sauf de toi, donc.
D'accord, ok. Et du coup, t'as changé de travail depuis ou...
Oui, après je suis passée en indépendante.
D'accord. Donc, là...
okay. Ça regarde plus personne. C'est ça. Non, je dis pas mes clients. Non.
Ah, ce serait intéressant de vous avoir une prochaine fois sur le sujet du travail. Oh. Sur le sujet du travail, parce que je sais que vous avez déjà fait un podcast là-dessus, mais d'avoir un petit peu...
Le premier épisode, ouais. C'était
d'avoir un petit peu un tour de table, de voir un petit peu comment... Parce que moi, j'étais un peu comme toi, Tiffany, au début. Et après, j'ai tout mis sur la table. Genre, direct à l'interview, maintenant, je suis en mode... Au fait, je suis allée en vacances avec ma copine, le jour d'avant.
Je balance tout, quoi.
Ouais, c'est ça. Comme ça, je me dis, si la personne en face de moi réagit mal, je refuse. J'ai pas envie de me retrouver dans un environnement
de bruit.
C'est différent, je pense, au niveau en Angleterre et en France. Je pense que, après, ça dépend où aussi, mais je pense que la mentalité est différente. Je pense qu'en tout cas, moi, en tout cas, à Brighton, je serais étonnée si les gens étaient surpris de... Si je leur disais oui, je suis dans un couple queer, ils me regarderaient avec des grands yeux. Je me dirais, mais sur quelle planète tu vis? Parce que.
Ouais, après Brighton. 22, quoi. Ouais, mais faut savoir que Brighton, là où mes filles habitent, c'est vraiment une capitale limite. Quand tu dis que t'es hétéro, les gens sont surpris, quoi.
C'est la capitale gay de l'Angleterre. C'est vrai, ça aide du coup.
Ouais.
Mais bon, après Liverpool, Eva, ça va aussi, non?
Ça va, oui, en effet, ça va, mais y a toujours. En fait, ça dépend de dans quel milieu tu travailles. Et. T'as des moments, t'as des endroits où ça va, mais t'as des endroits qui sont... Ça dépend de quel quartier de Liverpool, parce que il y en a quand même qui sont un petit peu... qui sont un peu conservateurs, ou alors qu'on... Ouais. Genre, l'autre fois, même là où j'habite, dans mon village, il y a quand même pas mal... Enfin, récemment, j'ai remarqué une importante... de nouvelles têtes queer qui apparaissaient comme ça, et j'étais en mode « Ah, trop cool !» Et en allant dans un pub comme ça, en buvant de mon côté, il y a peut-être un mois de ça, j'ai entendu une conversation d'un mec qui était vraiment choqué, enfin qui disait que son fils avait fait son coming out et qui était vraiment genre limite, il était en pleurs en train de parler de ça à son pote, et j'étais très choquée parce que là où j'habite, c'est quand même LGBT friendly, genre tu vas, il y a un café qui a un bar LGBT, qui a un drapeau LGBT, c'est quand même assez, ouais, c'est assez friendly quand même.
J'étais en mode, what ? Et encore des réfractaires. Mais peut-être l'Angleterre, ouais, moi je vois ça comme un pays quand même vachement plus ouvert que la France. Ça fait un peu vieille France encore, je trouve.
Ouais.
En tout cas, ouais, je sais pas pour toi Eva aussi, mais en rentrant en France, ouais, c'est vrai que les gens ont un regard un peu différent, quoi. Ouais. Je me sens moins à l'aise de marcher main dans la main ici qu'en France.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Quand. Bon, retournons à nos questions. alors, je pense que vous avez déjà répondu à ça, mais je vais quand même poser cette question. Quelles ont été les réactions des gens apprenant que vous étiez engagé, que ce soit, je ne sais pas, en allant au médecin, que ce soit... Vous savez, ces petits moments de vie où les gens se rendent compte qu'en fait vous êtes un couple et que vous allez vous marier, ou même votre famille ou vos amis, quelles ont été les réactions
par rapport au fait de se fiancer?
Ouais.
Ils étaient surpris parce qu'ils trouvaient que ça allait vite. Ça faisait qu'un an qu'on était ensemble et c'est rapide en fait de se dire on se marie dans 6 mois. D'habitude les gens ils prennent plus le temps d'organiser et tout ça, donc il y avait ce genre de réaction, mais c'était pas lié au fait qu'on soit deux femmes.
Ouais. Et d'ailleurs, ça, je suis d'accord aussi, parce que je trouve qu'il y a cette... on dit oui et tout en temps lesbien, etc. Donc, on en rigole, etc. Il y a ces stéréotypes. Mais honnêtement, j'en parlais à Hope, du coup. on regardait une... Je crois que c'était de la télé-réalité. Et il y a un couple qui disait qu'ils étaient ensemble depuis un an. Et c'est ça, au bout de 3 mois, ils se sont mariés. 3 mois après, bébé. un an et demi ensemble. C'était un truc, un compte comme ça. Je me suis dit, mais la prochaine fois qu'on nous dit quelque chose, je leur fais, je leur montre cet épisode-là.
Et en fait, ce couple.
C'est ça. Non, mais c'est vrai. Je trouve que en fait, on en fait tout un. On en fait tout un plat, mais on a ce stéréotype dans la communauté, mais les hétéros font aussi la même chose. Ouais. Donc, on en parle moins.
Oui, il y en a, ils vont vite aussi.
Ouais.
Il y a peut-être, en étant lesbienne, il y a peut-être ce double, comment dire, ce double effet, comme, vu qu'on est deux femmes, on est censé pas être pragmatique, pas être, enfin, en général, selon la société patriarcale, et du coup, il y a peut-être ce double standard, du coup, qui est attribué au couple lesbienne, vu que
hétéro, on dit souvent que c'est l'homme qui veut pas s'engager et tout, donc c'est là il y a plus ce mec qui freine les choses en fait, si on peut dire. Ouais.
C'est vrai.
Ouais, après il y a des couples hétéros qui se marient très vite aussi. Hein. Okay. C'est juste que chez les lesbiennes ça va encore plus se faire remarquer.
Ouais, c'est ça. Et chez les hétéros, il y a aussi des mecs qui sont. C'est le mec qui pousse pour se marier, pour avoir des enfants. Je pense qu'il y a un peu de tous les comportements chez tout le monde.
Exactement.
Mais après, c'est vrai quoi, pour l'aspect, comme tu disais, médecin et tout, le fait qu'ils sachent qu'on est mariés, je pense que une fois sur deux, en fait, ils savent pas, ils sont étonnés. Il y en a qui nous disent, quand on amène les gosses au médecin, ils disent, vous êtes la tante, en parlant de moi. Après, des coups. Ouais, il y en a une qui m'a dit la mère, hein, carrément, une fois, je dis, ça fait plaisir.
De moi.
La mère d'elle. Ouais.
Ah, oh, rigole, c'est pas vrai.
Elle avait 4 ans de moins que moi.
Ça devait être les cheveux blancs, je sais pas.
C'est vrai que les gens, ils imaginent pas comment
ça. Ouais, ça vient pas dans leur tête, en fait. Wow. Ils sont tellement dans leur truc.
Pour les gosses, qui me demandaient si on était sœurs.
Ouais, on a eu droit à sœurs.
Qui était lesbienne, elle rigolait dans son coin.
Ça n'a pas de sens.
C'était lesbienne. Enfin, on pense.
Mais après, c'est vrai que nos looks ne donnent pas un indice sur notre orientation sexuelle, on va dire. Donc, ils n'y pensent pas forcément tant qu'on ne le dit pas, en fait.
Ouais.
Et après, ils sont là en mode « Oh, tu es une amie lesbienne aussi
!» La fameuse amie.
Non, mais ils sont... Il n'y a pas des mauvaises réactions, mais bon. On sent qu'il y a une petite gêne au début.
Ouais. Mais c'est dommage que dans l'imaginaire... on se dise pas automatiquement « Ah, il y a une possibilité que ce soit un couple lesbien. »
Non,
il y a une possibilité que ce soit un couple queer. Ouais. Automatiquement, c'est la tante, mère. Alors ça, c'est la mère.
Ouais. Ah oui, puis moi, quand j'étais enceinte, on me parlait toujours du papa, alors qu'il n'y en a pas forcément. Déjà, il y a des femmes qui ont des enfants seules et puis il y a les couples aussi.
Ouais. C'est vrai.
Et c'est toi, vrai. T'es
à côté. On a encore du chemin à faire. Hein.
Ouais, non,
ouais. Alors, du coup, est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager par rapport à votre mariage ?
On avait toutes les deux presque la même barrette de cheveux. C'était pas du tout fait exprès. Enfin, on avait carrément la même.
Alors, c'était un peu habillé pareil, oui, j'avoue.
Nos robes se ressemblaient beaucoup. Et pareil, on les avait pas choisies ensemble. Le photographe, il trouvait ça marrant d'être un mariage de deux femmes, donc il était là en train de détecter dans les invités qui est gay, qui est lesbienne. C'est marrant.
Il allait vers les clichés, les mecs qui avaient les bretelles, il pensait direct qu'ils étaient gays, quoi.
Le premier qu'il a dit, c'était mon père.
Ah, c'est vrai.
Enfin, mon père et le mec de mon père, mais qui est très très efféminé pour.
Ah, c'est lui qui a pris le bouquet, donc.
Non, il a été pas mal, franchement.
Ouais, il a bien trouvé, ouais. Il a bien trouvé. Un petit peu l'attraction de venir à un mariage de lesbienne, c'est sûr.
Vous êtes mariée où du coup ? À Lyon, autour de Lyon aussi ou...
À la mairie à Lyon, et on avait loué une ancienne grange rénovée avec un beau parc en périphérie de Lyon. Et c'était sympa. Super beau.
Oh, ça sonne très beau en tout cas. Ouais.
Donnez les adresses, parce que je crois que mes filles, elles doivent être intéressées.
C'est un peu loin.
Hein. Ça fait un peu loin, mais on ne sait jamais.
Ok, bon, on va passer à la partie bébé et PMA. Mm-hmm. Comme on l'a mentionné dans la présentation, vous avez du coup deux enfants, enfin, plus deux, mais deux enfants.
Ouais.
À quel moment avez-vous pris la décision d'avoir des enfants ? Et pourquoi la PMA, en gros, pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre expérience, nous partager votre expérience ?
Vas-y.
Ah, c'est moi. Comme on disait tout à l'heure, dès le premier rendez-vous, Tiffany m'a dit que commençait à approcher de la date de péremption et qu'il ne fallait pas trop traîner. Non, mais ouais, c'est vrai que dès le premier rendez-vous, on a évoqué ça, mais sans dire qu'on allait le faire ensemble, hein, mais c'est aussi une façon de savoir si on avait les mêmes attentes, je pense. On était en vacances sur une plage en Californie quand on s'est dit on démarre l'été prochain. Et dans l'hiver, ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble, on a décidé de se marier. On a commencé à étudier les possibilités. Pour nous, c'était forcément PMA. Parce que artisanal, c'est possible, hein, trouver un donneur et se débrouiller avec ce qui peut nous donner, on va dire. Mais ça nous paraissait un peu trop risqué à plein de niveaux. Au niveau de la santé, au niveau des droits aussi. Parce qu'ils pouvaient toujours venir réclamer des droits sur le bébé qui avait été créé grâce à lui, on va dire. Donc PMA. Et PMA, ben, on avait surtout la Belgique et l'Espagne en tête. Sachant qu'à Lyon, on était entre les deux, quoi, géographiquement.
Ouais. D'accord. Juste avant que tu continues, du coup, dans l'histoire, pourquoi pas adoption ?
Tu voulais être enceinte ?
Alors, j'avais envie de vivre ça au moins une fois. Une fois, ça suffit, là. Mais non, l'adoption, moi, j'ai vraiment l'image du parcours du combattant. Hein.
Oui.
Je me suis dit que c'était impossible.
Moi, je voyais ça un truc impossible aussi. Ouais.
D'accord, ok.
Je me dis, c'est des gens qui ont des situations de foufou, un couple marié depuis tant d'années et tout. Donc, ouais, c'était... Je me disais, c'est même pas possible, en fait.
Ouais, c'est compliqué pour les hétéros et c'est quasiment impossible pour les couples d'hommes ou les couples de femmes.
D'accord, ok. Et donc, vous êtes partie en Espagne en premier, c'est ça, pour la PM ? Qu'est-ce qu'en s'est passé ?
Bah, il s'est passé qu'on avait... On s'est inscrite à une réunion d'information qui avait lieu à Lyon avec quelques cliniques espagnoles, qui a été annulée parce que c'était prévu fin mars 2020. Donc, Covid. On a quand même fait un Skype avec eux. Et puis, on avait plein de voyages prévus cette année-là qui sont tous tombés à l'eau. Et on s'est dit, vu qu'on ne veut pas voyager, autant commencer maintenant. Mais ce n'était pas possible de passer les frontières. Donc, on a découvert qu'il y avait une autre façon clandestine, en fait, de le faire en France en commandant auprès d'une banque de sperme danoise. Et en faisant livrer chez un gynécologue français qui acceptait de faire lui-même le suivi et les inséminations.
Donc, il y en a peu en fait en France qui font ça parce que c'est pas, c'était pas légal du coup. Et on en a trouvé notamment une sur Lyon qui je pense suivait toutes les lesbiennes de Lyon d'ailleurs.
Ah, il y avait que deux chez elle.
D'accord.
Okay. Et comment vous avez réussi
Comment vous avez récupéré cette adresse
J'avais la même question.
Groupe Facebook.
Ouais, groupe Facebook. Sur les réseaux.
D'accord.
Okay. Il y a beaucoup de noms. On peut trouver facilement des noms en fait de gynéco gay friendly sur internet, quoi, je trouve.
Ouais. D'accord. Et le coût du coup de la procédure.
Tu commandes ce qu'on appelle des paillettes, c'est minus, c'est tout petit. Et ça nous coûtait 900 à 1000 euros par tentative. Mais ça doit être transporté depuis le Danemark de façon à ce que ça reste congelé. Donc ça, pareil, tu rajoutes genre 400 euros, quoi.
D'accord.
C'est pas vrai.
Et on a sous le gynéco au black.
Ouais.
D'accord. Wow. Et du coup, c'est compris dans le package ou alors est-ce que tu dois te démerder pour trouver un transporteur ?
Non.
Eux, c'est compris dans le package, oui.
Okay.
À ce prix-là, ouais, encore heureux. Oui.
Hein. D'accord. D'aller en Espagne. Hein.
C'est moins cher d'aller en Espagne, du coup.
Ouais. Mais c'était plus pratique. Et puis, de toute façon, c'était pas possible d'aller en Espagne quand on a démarré. Donc...
Ouais. Et ça coûte combien en Espagne pour avoir une petite
Je crois que c'est 800 à 900 euros une insémination.
Oui. Okay. Par contre, en Espagne, ouais, on est parti directement sur une FIV, vu qu'on avait fait en France les inséminations. Et là, alors on était passé par une association, donc je crois que c'était 30% en moins.
Ouais, on a payé 4 700 au lieu de 6 000. Ouais. Donc c'est à peu près ça, ouais.
D'accord, ok, waouh.
Okay. Ça reste quand même des gros budgets. Hein.
Mmh. Ouais, ça reste.
Et ça, c'est juste pour une tentative.
Non, oui. Ça, c'est pour la FIV, par contre.
Alors, là, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est la FIV, désolée.
Ah, en fait, insémination, on t'insémine.
Avec une pipette, on va dire.
Voilà, au moment où tu ovules, et puis c'est un peu comme si tu concevais naturellement, finalement.
D'accord.
Et la FIV, en fait, c'est qu'on te... C'est une opération, un bloc opératoire, on prélève le contenu de tes ovaires. Après t'avoir fait plein de piqûres pour que t'aies plein d'ovules c'est fécondation in vitro, donc après ils prennent tous tes ovules, ils appellent ça des ovocytes, et dans une éprouvette ils les font rencontrer avec des spermatozoïdes et ça fait des embryons et ces embryons là soit on te les, ils appellent ça transférer, donc ils te les inséminent dans l'utérus on va dire, soit ils te le font quelques jours après, soit ils te les congèlent. Et ensuite, bah, tu peux les transférer plus tard. Ça veut dire que, bah, avec une FIV, tu peux avoir plusieurs enfants.
D'accord.
Une année de différence. Mm-hmm. Et les chances de succès sont plus élevées, mais c'est beaucoup plus cher et c'est aussi bah, plus lourd parce que tu as un passage au bloc opératoire. Ouais. Tu as un traitement de stimulation hormonale qui est un peu lourd, quoi. Alors ça, on l'avait déjà sur les inséminations. Mm-hmm. C'est Tiffany qui m'a fait toutes les piqûres. On a compté, il y en a eu 80 à peu près hein, au total. Mm-hmm.
Ouais. Wow, détermination.
Wow. Ouais. Ouais, je crois qu'on les a mérités là, nos
oui.
Et vous aviez fait, alors déjà, bon, avant que je pose cette question, c'était combien le temps d'attente pour pouvoir accéder à ça?
En Espagne, il n'y en avait pas.
D'accord.
Okay. Ouais, c'est dès que tu appelles, tu prends rendez-vous, tu as juste le temps en fait d'attendre sur tes cycles en fait. Ouais. Et après, soit ils t'inséminent, on va dire, à la fraîche, quoi, dans les 2-3 jours. Ouais, soit sinon il faut que tu attendes un mois.
Sur le cycle suivant, en fait.
Ouais. Donc on va dire, ouais, en 2-3 mois, une FIV, c'est fait, quoi.
D'accord, ok.
Et vu que la FIV, du coup, l'embryon est créé, etc., est-ce que, enfin, donc du coup, les chances de prise sont plus élevées. Est-ce que ça a marché directement avec la première FIV? Ouais, directement.
Ouais.
Les inséminations, on en a fait 5. Au bout de la deuxième, ça a fonctionné, mais il y a eu une fausse couche assez rapidement.
Ah,
donc après, on allait jusqu'à la cinquième et on s'est dit, ouais, c'est bon, on passe à l'étape au-dessus, parce que sinon, c'est décourageant, en fait, de
et puis, ça fonctionne pas. C'était éprouvant. Ouais. Je commençais à avoir de plus en plus mal quand elle me faisait des piqûres. Ouais. Je pense qu'il y avait un côté psychologique aussi. Hein.
Ouais, puis financier, hein, parce que ça revient cher à chaque fois.
Ouais. Puis au niveau des hormones aussi, du coup, tu devais être à donf en hormones. Non,
les inséminations ne faisaient pas trop d'effets secondaires. Par contre, la stimulation pour la FIV, oh, j'étais épuisée, quoi. Mais après, ça dure 10 jours. Donc, et puis alors, ça fait un bon entraînement pour la grossesse parce que c'est rien à côté de quand tu es enceinte.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire, tu peux développer.
Alors moi, j'attendais des jumeaux, donc j'étais plus fatiguée qu'une femme qui attend qu'un bébé, je pense. Mais ouais. J'étais vraiment KO. Pendant le premier trimestre et sur les dernières semaines, surtout parce que je dormais très mal, en fait. J'avais un truc énorme, là.
Être bête, ouais.
De respirer et tout. Donc...
Oh. Ouais, ça a l'air intense.
D'ailleurs, justement, au sujet des jumeaux, c'était un choix ou alors est-ce que vous en avez eu deux d'un coup? Enfin, sans forcément le prévoir?
Bah, disons que si on te mettait, c'est un embryon, et je crois 25% de chances que ça marche. Si on te met deux embryons, tu as 70% que ça marche.
Ah ouais,
wow.
D'accord. Okay.
Quand tu es passé par des inséminations et tout avant, ça marche. Mais il y a le risque que ce soit des jumeaux. Quoi.
Ah, c'est le jackpot en fait.
Ouais.
Super.
Moi, les jumeaux, c'était une idée qui me plaisait assez. Mais je ne me rendais pas compte du boulot que ça
faisait. Bah, c'est ça. La charge de travail, après, c'est multiplié par deux.
Oui, puis un peu plus, parce qu'ils s'entraînent l'un et l'autre. Quand on a un qui pleure, au bout d'un moment, l'autre finit par pleurer. Alors
ça ne s'arrête jamais.
Il aurait été tout seul, il ne l'aurait pas fait, tu vois.
Bah ouais, forcément. Ils font leur nuit, du coup, les bébés, là. Ouais.
Alléluia.
C'est déjà ça. Bon, super. Du coup, quelles sont vos craintes en tant que parente et quels sont vos souhaits les plus chers?
Moi, mes craintes, c'est qu'ils soient stigmatisés à cause du fait qu'ils ont deux mères. Ça serait ça.
Ouais, qu'ils se reçoivent des petites réflexions à l'école. Moi, je pense surtout à l'école. Parce que c'est là où ils vont en avoir le plus, hein. Ouais, qu'ils se fassent des réflexions, que les gens disent mais il est où ton papa, ce genre de choses en fait. Et que du coup, en fait, ils aillent eux-mêmes se chercher des problèmes auxquels ils ne pensaient pas avant, en fait. C'est
Ouais,
ça qui
les...
fait peur, quoi. Après, ils sont deux, je me dis. Donc, s'il y en a un qui se fait embêter, il y aura l'autre qui viendra. Donc, je me dis d'un coup,
Ouais.
il vient, quoi, qu'ils soient deux.
Ça peut aider,
Ouais.
ouais.
Mais c'est vrai que ouais, ce côté-là, ouais, ça fait peur, parce que rien que là, ils ont tout juste 4 mois. Et il y a déjà des gens en fait qui disent mais comment ils vont faire quand ils vont être plus grands, les questions qu'ils vont se poser,
Oui, il
ils
y a
sont déjà tout, ils sont
des
que tout petits
gens
quoi.
qui considèrent déjà qu'ils vont forcément être perturbés à
Ouais,
un
c'est ça,
moment
ouais.
ou à un autre parce qu'ils ne connaîtront pas leurs racines. Franchement, ils auront deux parents et puis voilà, c'est l'important, quoi.
Toute façon, on va leur dire, dès qu'ils vont poser des questions, ils seront en âge de comprendre, on va leur dire la vérité, hein, c'est ça va se voir. Hein. Mais ouais, je pense, moi j'ai peur, c'est les gens en fait qu'ils aillent leur faire des réflexions à l'école et tout, quoi.
Après, avec l'adoption, ça serait pareil en même temps. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, les familles monoparentales, enfin, je comprends, enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'à l'heure actuelle, on puisse encore sortir ce genre de commentaires, que l'enfant
Alors,
sera
ouais, et
perturbé.
en plus, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui disait que en couple de parents, bah, le mieux qu'on peut trouver, c'est deux femmes. Parce que, non,
Ah,
deux femmes.
totalement. Tu défends ta paroisse.
Non, mais dans la majorité des couples hétéros, quand un enfant est malade, c'est sa mère qui s'occupe de lui. Dans le quotidien, c'est beaucoup sa mère qui s'occupe de lui. Et du coup, les études, elles montrent que un enfant est très épanoui avec deux mères parce qu'il a deux parents qui s'occupent vraiment de lui, quoi, qui sont très investis dans son éducation. Et c'est pas toujours le cas chez les couples hétéros, quoi.
C'est vrai.
D'accord, ok. Ouais, ça, c'est vrai que ça a du sens si. Ouais. Faudra que tu nous partages cet article d'ailleurs, ce serait
Ouais, que
intéressant.
je remette la main dessus.
Ouais.
Ouais.
Et que je parle lesbienne avec des enfants, évidemment. Ouais.
Je crois.
Et du coup, quels sont vos souhaits les plus chers pour eux?
Bah, qu'ils soient en bonne
Ouais,
santé.
je sais pas, qu'ils soient heureux, épanouis, qu'ils aient pas à se poser les questions qu'on s'est posées. Et c'est vrai que le fait de vouloir aller en Espagne aussi, c'est par rapport à ça. Je trouve qu'on est très coincé du cul en France. Hein. Et aller dans un pays où on se dit, on les a fait en fait là-bas et tout, je me dis peut-être, même si il y aura toujours des cons, quoi, mais je me dis, les emmener dans un pays où peut-être c'est plus ouvert et tout, ils se poseront moins de questions
Ouais,
et tout. Donc,
c'est sûr. C'est
donc ouais,
vrai.
qu'ils ne se posent pas de questions dans leur vie.
Ouais, c'est ça, qu'ils puissent être eux-mêmes sans être toujours en ayant peur du jugement des autres, quoi.
Après, peut-être, hein, peut-être que, comme des gens qui ont été peut-être adoptés ou quoi, il y a un moment où dans leur vie, ils se posent des questions, qui se demandent d'où ils viennent et tout, peut-être ça arrivera. Hein, ça va peut-être être possible, hein, malheureusement. On ne
On
leur souhaite pas,
verra.
hein, mais bon.
Ouais.
Bon,
Après,
Donc,
c'est normal.
ouais.
ouais, ça arrivera. Et puis c'est vrai que, enfin, d'ailleurs, et si vous voulez aller voir vos bébés, n'hésitez pas.
Ah,
Enfin,
mais
j'entends derrière. On sait pas. Ouais, alors, je préfère mettre ça un petit peu parce qu'au cas où vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et tout, il n'y a pas de souci de notre côté.
non, ils font bien
D'accord,
dodo,
ok.
c'est bon.
Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est vrai qu'on s'inquiète un peu, mais comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit mes filles ou vous deux, un enfant, généralement, il est content dans le monde dans lequel il vit. Et je veux
Ça,
dire,
non, non, il ne se demande pas, ça devrait être autrement.
c'est ça, les injonctions, elles arrivent quand c'est les autres qui lui balancent un petit peu à la figure,
Correct.
mais tant qu'il est heureux, entre guillemets, généralement, il n'y a pas forcément. Voilà, s'il pose des questions, il pose des questions, mais. Y a pas forcément de trauma, à moins qu'il y ait un truc vraiment
Ouais.
large qui se soit passé un peu après, quoi. Enfin anyway. Bon, vous avez un peu répondu à cette question. Quelles sont les réactions de votre entourage quand les gens se rendent compte que vous êtes deux mamans et que les bébés ont deux mamans? Mais comment, c'est quoi vos techniques? Comment vous réagissez par rapport à ça?
Bah, je pense qu'on essaie de pas créer de conflits. Enfin, Il y a 2-3 mois, on était chez notre médecin généraliste, qui est aussi celle des bébés. Et moi, je tenais un des deux bébés. Et à un moment, la médecin lui dit, parce que je m'éloignais, « Ah tiens, va avec ton papa.
» Et mais c'était...
On s'est regardé.
Non, mais c'était parce qu'elle a l'habitude, quoi.
Mais oui, mais du coup, sur le coup, elle n'a rien dit. Je pense qu'elle était très gênée. Et puis, elle est partie s'asseoir à son bureau. Puis, elle dit, je suis désolée. J'ai vraiment pas de problème avec ça, en plus.
Elle n'a pas fait exprès, elle.
Du coup, enfin, on dit non, parce que...
T'as le droit d'être en colère, hein.
Non, mais oui. Non, mais... Ouais, c'est... Le fait qu'ils aient... y a eu pire. Hein. Par exemple, quand on est allé faire les papiers pour que moi, je puisse être leur mère aussi. Par exemple, à la mairie. Alors déjà, c'est assez laborieux, quoi.
Ça faisait un moment qu'on y était. Hein.
Ouais, ça faisait un moment qu'on
y
était.
Il avait compris la situation.
Au bout d'un moment, le mec, il a quand même posé la question, alors que ça lui servait à rien. C'est qui la mère ?
C'est qui la maman ? Ça n'avait alors absolument que,
putain, qu'un... Ouais, alors qu'on venait pour être toutes les deux les mères, alors que ça, en plus, ça ne lui servait à rien, quoi. Ouais, c'était super vexant.
Dans ce genre
fait.
De moment, ouais. Je trouve que c'est à moi de répondre, en fait, pour te défendre un peu, quoi. Alors, je dis, c'est moi qui ai accouché, mais j'ai pas dit, c'est moi la maman, parce que c'est nous deux les mamans, en fait.
Ouais. Ils demandent toujours, hein. Ils veulent toujours savoir, en fait, c'est qui la mère biologique. C'est vraiment le truc qu'ils ont envie de savoir, quoi.
Curiosité malsaine, hein, parce que ça apporte aucun...
Quel est le nom de celle qui avait porté, quel est le nom de celle qui n'avait pas porté, sauf qu'il ne savait pas qui était Tiffany, qui était Marion. Mais ça ne lui changeait rien, en fait.
Mais c'est ça. Il n'y a pas de plus-value, en fait. C'est juste de la curiosité malsaine.
Oui, c'est ça. Ils veulent absolument savoir.
C'était très maladroit, quoi.
Mais tous, hein. Vraiment tous.
Et l'été dernier, on était invités chez un couple. Le mec, à un moment, nous dit « Qu'est-ce que vous avez comme info sur le papa ?» Il n'existe pas. Le papa, en plus, c'est un terme...
affectueux.
Bah ouais.
Ouais.
Ça nous avait gonflé, ça.
Ouais, bah ouais, forcément. Et quand bien même vous en auriez, je pense pas que c'était le moment choisi pour en parler. Ouais, alors ouais. Bon, maintenant que tu es là, on voulait te mettre au courant. Ça n'a pas de sens.
Ouais, non. En plus, c'est un couple qui était aussi passé par une FIV, donc il savait le process et tout. Mm-hmm. Donc c'était malvenu, quoi.
Ouais.
Mais les gens, je trouve, ouais, ils veulent tout le temps savoir qui est la mère biologique. Et dès qu'ils savent, moi j'ai l'impression, mais peut-être parce que je suis parano, qu'après ils regardent plus Marion quand ils parlent.
Ouais.
Tu t'en rends pas compte, mais moi je m'en rends compte.
Mais si tu ressens ça, c'est qu'il y a forcément un truc. Hein.
Oui, c'est sûr.
Un petit peu.
Mais toi, elle parle de mère biologique et il y a plein de quiproquos, j'ai entendu sur des podcasts et tout, dans des institutions qui ne connaissent pas la méthode de la FIV ROPA. La FIV ROPA, en gros, c'est l'une des deux donne ses ovocytes et l'autre porte le bébé. Dans ce cas-là, la mère biologique officiellement, c'est pas celle qui a porté le bébé et qui a accouché. Et ça, ils sont complètement perdus, ils comprennent rien. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, on était à l'hôpital où j'ai accouché et on a vu une gynéco qui nous a demandé, parce qu'on parlait d'une maladie génétique que potentiellement je pourrais transmettre à notre fille, et toi, tu as demandé si je pouvais lui transmettre. Et elle connaissait cette méthode, donc elle a dit ça dépend, vous avez utilisé les ovocytes de qui ? Et j'ai trouvé ça vachement bien que gynéco en France, où c'est pas possible, la nouvelle loi ne permet pas de faire ça, elle sait quand même que ça existe dans les autres pays.
Après, je soupçonne qu'elle était un peu lesbienne aussi.
Ah,
un peu. Il y a peut-être pour ça.
Heureusement qu'on en a. Hein.
Je sais pas.
Non, mais c'est bien. Non, mais t'as totalement. C'est dans tous les cas, c'est vrai que c'est bien qu'au moins, enfin, de savoir que un personnel de santé ait cette info et demande ça. Déjà, mais tu te sens entre de bonnes mains, j'imagine.
Mais ils ont fait des bacs plus 10 de médecine. Ils savent tout ça. C'est juste qu'ils n'ont pas envie.
Exactement.
Ils n'ont pas envie de le dire, quoi. Ouais.
Non, mais ouais. Bah, tu sais, hein, même dans la sphère la plus haute, hein, il y a toujours. On s'en sort pas, hein.
Ah ouais, non, mais c'est ça. Ils savent très bien, c'est juste que...
Ouais, ils n'ont pas envie. Hein. C'est ça. Waouh. Eh ben. Et du coup, je vais vous poser la question, enfin la problématique de cet épisode. Je vais vous la reposer. Comment construire et protéger sa famille LGBTQ+, face à l'écrasante présence excusez-moi, l'écrasante présence hétéronormative du quotidien.
Faut pas se cacher, je pense, déjà. Faut pas donner le sentiment qu'on a honte ou... Enfin, le truc vivons cachés, vivons heureux, non, on peut plus fonctionner comme ça, quoi.
C'est important. D'être visible.
Ouais, et il ne faut pas hésiter à corriger les gens.
Ouais. Je pense, ouais, mais moi j'ai tendance un petit peu à rentrer vite dans le conflit aussi, donc c'est pas bon. Mais ouais, je pense qu'il faut expliquer aux gens, et le fait de leur parler, des fois ils découvrent des choses aussi. Et c'est un petit peu l'attraction, hein, je trouve, hein, qu'on soit deux lesbiennes, deux mamans.
Avec deux bébés, enfin avec des jumeaux.
Donc, en plus. Ouais, bah, c'est un petit peu notre rôle malheureusement d'expliquer aux gens. Comment ça s'est passé tout ça ouais.
Est-ce que vous obtenez toujours autant de, comment dire, quand, entre guillemets, quand vous êtes quand on est lesbienne célibataire, ou même pas forcément célibataire, mais il y a toujours et qu'on sort en soirée ou quoi que ce soit, il y a toujours un petit peu, comment dire, dans une soirée, un mec qui va venir en mode « Ah, mais voilà, je suis pas jaloux », qui va tenter un petit peu de s'infiltrer. Est-ce que vous avez, maintenant que vous êtes deux mamans, enfin, que vous êtes maman, pardon, avec deux bébés, est-ce que vous obtenez toujours ça? Est-ce que c'est décuplé? Ou alors moins? Est-ce que les gens, vous avez l'impression que les gens vous respectent un peu plus du fait que vous êtes engagée?
Avec deux bébés de 4 mois, on peut aller dans des soirées.
Ouais, elle peut même pas faire le podcast encore.
C'est vrai que c'est un peu con.
Ouais. Bah, moi, je trouve les mecs, ils... Non, ils sont un peu limite mal à l'aise, en fait. Parce qu'ils voient que ça marche, tu vois. C'est pas comme si, tu vois, t'es une lesbienne célibataire ou t'es juste en couple, juste deux femmes, tu vois. Là, ils se disent il y a possibilité de s'infiltrer, tu vois. Ils s'imaginent toujours des choses. Là, tu vois, on n'est pas juste mariés, on a des gosses en plus, tu vois. Donc, tu rentres dans une atmosphère famille. Donc, je trouve que du coup, les gens, ils osent moins dire. Par exemple, j'ai mon beau-frère, le copain de ma sœur, alors qu'il avait déjà vu Marion une fois. On n'était pas encore mariés, je crois. Il m'avait dit « c'est ta copine, c'est mes dernières... » Ça faisait un petit peu vicieux, tu vois. Oui, oui. Enfin, je l'ai senti, tu vois, comme ça, mais il en profitait parce qu'on était juste deux femmes, on était en mode copine. Et là, maintenant qu'on a les gosses, mais il ne me dit plus rien. Parce que toi, tu rentres dans un univers un petit peu famille. Donc, je pense que peut-être ça les met un petit peu mal à l'aise, en fait, de voir que ça peut fonctionner, quoi.
Ben, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'un couple de femmes, ce n'est pas sérieux dans l'esprit des gens. C'est moins sérieux un couple de femmes qu'un couple homme-femme. Souvent, j'ai cette impression-là. Mais là, maintenant qu'on est mariés, maintenant qu'on a des enfants, bah si, c'est sérieux pour eux, tu vois. Et donc, ils ont peut-être moins cette idée qu'ils peuvent s'amuser, en gros.
On peut pas aller en soirée pour plaisir. Ouais.
Ah, vous faites pas les baby showers et tout encore en France.
Non, ça c'est pas trop.
Bon, dernière question. Et quel conseil donneriez-vous aux personnes ayant envie de se lancer, que ce soit dans la PMA ou bien pour se marier, pour se lancer dans la vie de famille?
Ah bah, si on a envie de le faire, faut le faire, hein, c'est sûr. Et puis tout ce qui est PMA maintenant en France, c'est possible de le faire, donc déjà c'est gratuit. Et en plus, c'est vachement plus facile parce qu'avant, quand on le faisait à l'étranger, il fallait quand même avoir un gynéco français qui nous suive, qui accepte de faire des ordonnances, des examens. C'était très compliqué. Alors que maintenant, ça y est, ça c'est bon, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est un petit peu long, les délais. Donc, voilà, dès que vous y pensez, commencez à vous renseigner, vous inscrire à des trucs, parce que c'est pas pour tout de suite la première insémination, quoi.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps, mais faut se lancer. Hein. De toute façon, se marier, si on aime la personne, si ça nous fait plaisir... Faut le faire, quoi, c'est autorisé. Hein, donc,
autant... N'est-ce pas, Eva?
N'est-ce pas, ouais. Et les enfants, oui, en plus, maintenant, c'est légal. Donc, après, il faut penser, hein, parce que c'est du boulot et vous n'avez pas trop de temps. Mais
petit sourire, là.
Ouais, c'est chou. Poser des questions, faut faire. Franchement, moi, avant de connaître Marion, je voyais ma vie finir juste en couple avec quelqu'un, juste des chats. Je ne me voyais pas mariée, les enfants. Faut juste se lancer, quoi, c'est tout.
Et finalement, voilà, pas de regrets.
Sauf quand ils pleurent tout le temps, mais sinon ça va.
Semi-regret.
Oui, ben, ils ne seront pas bébés toute leur vie.
Exactement, ouais, ça a passé au bout d'un moment. Super. Ben, on va pouvoir clôturer cet épisode du coup. Donc, merci encore à Tiffany et Marion du podcast Madame et Madame pour nous avoir accordé du temps. Pour plus d'informations sur leur podcast, rendez-vous sur le site madame-et-madame.com. Vous pouvez aussi retrouver les épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles.
Si vous avez apprécié cette écoute, on vous encourage à le partager avec vos amis, à déposer un petit pouce bleu et ou à laisser une étoile sur vos applis de podcast préférés afin d'améliorer son référencement.
Vous venez donc d'écouter Le Placard et rendez-vous le mois prochain. Merci.